Un ordinateur portable qui disparaît, des documents top secrets qui passent entre les mains d'un stagiaire, une conversation entre collègues qui arrive aux oreilles d'un concurrent et c'est la compétitivité de l'entreprise qui est en danger. Personne n'est à l'abri de l'espionnage économique, mais peut-il couler une entreprise ? Comment s'en protéger ? En Sarthe, un ancien expert comptable s'est reconverti en conseil de contre-espionnage. Jean-Patrick Guiraud, vous êtes responsable du cabinet Ascone. Bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous avez trouvé des cas d'entreprises victimes d'espionnage en Sarthe ?
C'est très difficile de trouver des cas d'espionnage. Espionnage est d'ailleurs un mot un petit peu fort. Je pense qu'on est plus dans une situation de captation d'informations que d'espionnage. Et captation d'informations, fuite d'informations, c'est pas forcément espionnage. Espionnage implique une notion volontariste d'aller chercher ce qui est caché. Or, l'information est très disponible. On est dans une société de l'information, une société du savoir, où il y a de multiples situations où l'information est disponible, complètement disponible.
Vous voulez dire qu'en fait, les entreprises font plutôt l'erreur de diffuser trop d'informations sur elles ?
Oui, tout à fait. Et souvent, elles le font inconsciemment. Inconsciemment parce qu'elles ne prennent pas conscience des enjeux de l'information, des savoirs, des connaissances qui sont à l'intérieur de leurs entreprises. Et pour répondre à votre première question, est-ce qu'il y a des cas en Sarthe ? C'est très difficile à dire. En Sarthe, comme en France, alors certes, on entend parler de grands cas comme il y a eu l'année dernière en 2011, le cas de Renault, et avant Valeo ou d'autres. Ces cas-là sont un peu isolés. En Sarthe, comme dans les pays de Loire et comme en France, on a difficilement des statistiques sur ces situations parce que les entreprises ne communiquent pas.
Elles ont un peu honte d'avoir laissé échapper des informations.
Communiquer pour une entreprise à l'extérieur qu'elle s'est fait pirater son système informatique et que son fichier client est parti dans la nature, c'est peut-être pas très bon pour sa réputation.
Et alors vous, en tant que conseiller, comment est-ce que vous démarchez les entreprises pour leur dire il faut faire attention à vos données ?
Alors, je n'ai pas une activité de démarchage pure à ce niveau-là. Je m'inscris plutôt dans une démarche un petit peu complète, initiée par un certain nombre d'acteurs. Il existe un acteur sur la place du Mans et de la Sarthe, qui est la Chambre de commerce et d'industrie, et au sein de cet organisme, il existe, un petit club totalement informel et un peu restreint pour l'instant, qui travaille, qui est animé par Christelle Baudet, et qui travaille justement sur tous ces aspects de gestion de l'information dans les entreprises. Elle-même fait beaucoup de sensibilisation directe en visitant les entreprises, et puis au travers d'un petit groupe de travail sur la protection des informations, qui est corollaire à un groupe de travail sur la recherche d'informations, on essaye de sensibiliser très fortement les entreprises et les entreprises sartoises. Le groupe de travail sur la protection que j'anime avec Christelle Baudet a un objectif qui est de diffuser un package, alors sous quelle forme on n'en est pas encore là, sur la protection des informations à destination des petites entreprises. Quand on dit petites entreprises, ce sont les entreprises de moins de 50 salariés, c'est-à-dire celles qui constituent 99% du tissu économique national.
Oui. Voilà. Et Sartois également.
Et Sartois, bien entendu.
Et alors, quand vous rencontrez ces entreprises avant même d'intervenir et de faire votre action de sensibilisation, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Comment est-ce qu'ils protègent leurs données ?
Bien souvent, la première chose, quand on parle de protection des données qui vient, c'est la sécurité informatique.
Donc les logiciels antivirus,
les
antivirus, logiciels espions,
les sauvegardes informatiques. On parle beaucoup de sauvegardes, on parle d'antivirus en disant ça y est, je suis protégé parce que j'ai un antivirus. Je suis protégé parce que je fais mes sauvegardes régulièrement tous les soirs de données.
Ça, c'est ce que fait tout un chacun avec son propre ordinateur chez soi.
C'est ce que devrait faire tout un chacun. C'est ce que fait pas, malheureusement, tout un chacun et certainement pas toutes les entreprises. Il y a des entreprises qui ont des ordinateurs avec des antivirus qui sont un peu des passoires. Je citerai pas de nom, mais c'est pas suffisant. Il faut aller chercher aussi, puisqu'on parle de cet aspect informatique, l'antivirus, c'est bien. mais il faut aussi des logiciels qui traquent ce qu'on appelle, en termes techniques, les malwares, c'est-à-dire des logiciels espions qui se mettent de manière très très discrète sur votre ordinateur et qui vont absorber. Moi, je vais vous citer un cas très concret. J'ai téléchargé l'autre jour un logiciel gratuit mis à disposition, comme beaucoup font. Hein, c'est pas du piratage, c'est de
un logiciel qui pour un usage qui n'avait rien à voir.
Un usage qui n'avait rien à voir. C'était simplement pour pouvoir générer, vous savez, les fameux QR, ces codes destinés à aller chercher l'information directement sur un site internet. Bon, ça m'intéressait de voir comment j'ai. Et aussitôt après avoir téléchargé ce logiciel, j'ai lancé mon, je dirais, anti-malware, c'est-à-dire mon logiciel qui va voir si il s'était pas installé autre chose. Eh bien, si, il s'était installé un autre logiciel espion en même temps. Donc, l'installation de logiciels gratuits, souvent, il faut être très très prudent parce qu'il y a autre chose qui s'installe dessus, très discrètement sur nos outils, et qui va ensuite ouvrir une porte dans tout le système.
Donc, première recommandation, bien sûr, avoir un antivirus, un logiciel qui va traquer les logiciels espions.
Un antivirus le plus complet possible et complété par des logiciels qui soient complémentaires de l'antivirus pur.
Et là où vous intervenez, c'est que vous dites que ce n'est pas suffisant d'avoir le bon logiciel et de sauvegarder ses données.
Ce n'est pas suffisant. Pour une raison éminemment simple. Et toutes les études que l'on peut lire, y compris les études qui viennent des gens qui éditent ces logiciels informatiques, montrent qu'en fait, la plupart, pour pas dire la majorité des fuites de données, d'informations, viennent de défaillances humaines, de défaillances de procédures, de négligences. Parce que on peut mettre tous les outils que l'on veut, s'ils ne sont pas correctement utilisés, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose.
Et alors, dans quel cas est-ce que les données d'une entreprise peuvent fuir de l'entreprise ?
Alors, on vient d'aborder cet aspect intrusion informatique. Je ne reviendrai pas dessus, parce que toute la littérature qui est faite porte là-dessus, et pour cause, la plupart des publications sont faites par des gens qui ont à vendre des solutions pour se protéger. Donc, elles communiquent sur ce risque-là, informatique. Je préférerais axer, je dirais, le propos sur des situations qui ne sont pas liées à l'informatique, justement, et qui, pour le commun des mortels, sont sans doute banales.
Alors, lesquelles ?
Une visite d'entreprise. C'est banal. Une entreprise ouvre ses portes parce qu'elle fait partie d'un club d'entreprise, hein, et elle organise une visite. J'ai participé moi-même à de nombreuses visites d'entreprises organisées et j'étais effaré par le peu de préparation de ces visites et par le fait qu'on pouvait récupérer de l'information. Moi, avec un œil peut-être un peu plus exercé que d'autres, je décelais des choses qui n'auraient jamais dû apparaître.
Et quoi, par exemple ?
Un tableau dans un atelier qui reste avec des notes de travail, comme il y a dans tous les ou avec un tableau dans lequel on diffuse en interne les notions de qualité.
Et ça peut poser un problème sérieux pour une entreprise, pour sa compétitivité.
Bien
par
entendu,
exemple.
Parce que ce sont des informations qui, prises isolément, ne sont pas forcément stratégiques, mais qui, mises bout à bout, collectées de manière structurée, et traité ensuite par des gens dont c'est le métier, là, on leur donne un sens et on peut comprendre sur quoi travaille l'entreprise, par exemple. Quel est son domaine dans lequel elle n'est pas pour l'instant, mais qu'elle va attaquer sur le marché. Ça peut aussi montrer à ses concurrents quel est son niveau de qualité de travail, de production. Par exemple, le pourcentage de déchets, c'est quelque chose d'extrêmement confidentiel dans une entreprise. Si lors d'une visite d'entreprise, c'est affiché, et maintenant avec les smartphones et tous ces outils où on peut prendre une photo très très vite, bon, c'est un danger. Et puis, je voudrais situer aussi un autre cas très simple celui d'accueil de stagiaires. Beaucoup d'entreprises accueillent des stagiaires dans le cadre de la formation continue, des étudiants en bac pro, en licence pro, en BTS, pour prendre que des cas très très concrets.
Et donc le stagiaire pourrait avoir accès à des données sensibles.
Mais et ces stagiaires, on leur demande de faire un rapport de stage. Et là, il faut évidemment faire attention, parce que le rapport de stage, on ne sait pas ce qui devient. J'ai été maître de stage dans ces situations-là, je faisais extrêmement attention aux informations qui étaient dans le rapport et à la confidentialité. Moi, j'ai vu des rapports de stage faits par des stagiaires où il y avait le nom des clients, dans le cabinet d'expertise que je dirigeais, où il y avait le nom des clients. Ou si on me barrait le nom du client, on me mettait une telle description de l'activité du client que n'importe qui pouvait déceler très rapidement.
Donc le chef d'entreprise a plutôt intérêt à relire le rapport, par exemple.
Bien entendu, à faire attention à ce qui sort de son entreprise.
Et un dernier cas, avant de passer à vos recommandations.
Le cas, c'est un cas aussi auquel, une situation tout à fait banale. Quand on est à l'extérieur de l'entreprise, que ça soit au restaurant, dans le train, dans une discussion entre amis, on ne sait pas qui est à côté. Il m'est arrivé une situation comme ça au restaurant, mais on ne sait pas qui est à la table d'à côté.
Et ça pourrait être un concurrent, ça pourrait être quelqu'un de mal intentionné.
Ça peut être un concurrent. On sait très bien que, par exemple, des trains, certains trains sensibles, le Paris-Lille, par exemple, qui prolonge sur Bruxelles, est un train truffé de gens qui ne font les allers-retours que pour capter de l'information qui se dit, qui se voit au travers de gens qui travaillent avec des ordinateurs sur lesquels il y a des informations complètement ouvertes, qui sont là, vraiment très ouvertes, vous ne savez pas qui est assis à côté de vous.
Et comment vous savez ça, qu'il peut y avoir des espions dans le train ?
Parce qu'il y a un certain nombre d'études qui sont faites, hein, et qui le démontrent. La source d'où je tiens ceci vient de la DCRI, Direction Centrale du Renseignement Intérieur, qui sensibilise aussi très fortement les entreprises sur ce plan.
Et contre cela, contre l'espionnage économique, Jean-Patrick Guiraud, vous proposez des conseils en entreprise au sein de votre cabinet Ascon. Et pour en savoir plus, eh bien, on peut voir votre site internet www.ascon.fr. Merci beaucoup de nous avoir parlé en quelques mots de cet espionnage économique en Sarthe.
Merci à vous.